Bonjour et bienvenue dans Venue d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne orientale. Je suis Nawal El Amouchi et cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Amal Kenbib, avocate pénaliste reconnue pour son engagement dans les affaires sensibles. Inscrite au barreau de Paris depuis près de 20 ans, fière de ses origines marocaines, elle milite pour une meilleure représentation des femmes issues de l'immigration dans le monde judiciaire français. Un parcours qui illustre une volonté forte de briser les stéréotypes et d'ouvrir la voie aux nouvelles générations de femmes. Entretien avec Amal Kenbib.
Je m'appelle Amal Kenbib, je suis avocat au barreau de Paris. J'exerce depuis maintenant plus de 20 ans et j'ai une activité principale en droit pénal. Je suis née marocaine, je suis en France depuis plus de 30 ans. Je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai passé mon bac au Maroc et je suis venue au moment où de faire ma faculté de droit à Paris.
Et le fait de devenir avocate, est-ce que c'était un rêve d'enfant pour vous ?
Je ne sais pas si c'était un rêve d'enfant, mais c'est quelque chose à laquelle j'ai souvent pensé. J'avais un grand-père qui était très admiratif des femmes avocates à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup, mais notamment Gisèle Halimi. Lui, il a vécu au Maroc, il a grandi au Maroc, mais c'était une femme dont il parlait souvent. Il avait très envie d'avoir l'une de ses filles avocates. Ça a sauté une génération. Donc c'est quelque chose que j'avais en tête déjà, ne serait-ce que par rapport à l'appétence de mon grand-père pour ce métier-là. Et puis j'avoue qu'à un moment, j'y ai prêté plus attention en tant que Marocaine, parce qu'il y avait un dossier dont on avait beaucoup entendu parler, qui était le dossier d'Omar Radad. À l'époque, j'étais au lycée. Et c'est vrai que j'avais trouvé cette affaire, pas fascinante, mais très dure. Ça permettait de voir un peu le déroulement, en tout cas ce qui en était présenté, des procédures pénales en France. Et c'était quelque chose que j'avais trouvé très violent.
Omar Radad, donc ce jardinier qui a été accusé...
Ce jardinier marocain qui a été accusé et condamné pour avoir tué son employeur, Marshall à l'époque. Et on disait qu'en substance, il l'avait assassiné parce qu'il lui avait demandé 5000 francs et qu'elle avait refusé. C'est un dossier dont il était beaucoup dit que l'enquête avait été vraiment bâclée, qu'il y avait des pistes qui avaient été totalement écartées parce que sur une porte d'entrée de la cave, je crois, était écrit en lettres de sang « Omar m'a tué » avec une erreur d'orthographe d'ailleurs à la fin qui étonnait un peu tout le monde parce que Madame Marshall avait l'air d'être quelqu'un de plutôt instruit. Et puis on a fixé sur cette personne qui était le jardinier. On a incinéré le corps quasi 48 heures après le crime. On a fait retaper des expertises parce que les premières expertises donnaient une date ou une heure de commission du crime qui ne pouvait pas correspondre à une intervention criminelle d'Omar Radad. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient très étonnantes. Et puis il y avait ce président de la cour d'assises qui, je crois, avait dit à un moment à l'accusé, mais puisque en tant que musulman, je l'ai fait en substance, en tant que musulman, vous êtes capable d'égorger un mouton, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas égorger Madame Marshall ? C'est quand même quelque chose d'extrêmement violent.
Donc une forme d'injustice, peut-être aussi teintée de racisme.
Plus que teintée, hein, je crois que quand on a ce genre de propos en salle d'audience, on est au-delà de la teinte. Hein. En tout cas, un procès, à mon sens, bâclé, parce que ça laisse encore beaucoup d'interrogations aujourd'hui, et une absence d'impartialité évidente, en tout cas.
Et ça, donc, c'est une affaire qui vous a marqué. Vous aviez quel âge à cette époque ?
Je devais avoir 16 ans.
Et cette affaire-là vous a peut-être aussi donné l'envie de faire ce métier-là ?
En tout cas, c'est resté dans un coin de mon esprit, de ma tête, parce que je me suis dit que c'était quand même d'une violence incroyable qu'on puisse agir comme ça, notamment en France, où souvent quand même on présente le pays comme étant un pays féru d'égalité, de liberté et de fraternité. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les frontons, mais dans la vie quotidienne, je ne suis pas sûre que ça s'applique tout le temps. Oui, c'était quelque chose qui marquait quand même une certaine violence. Alors que la justice, ça devrait être quelque chose de rassurant et quelque chose qui pourrait protéger les gens.
Et donc, vous avez quitté donc, le Maroc pour faire vos études en France.
Oui.
Vous êtes devenue avocate. Ça a été comment le départ ? Comment vous l'avez vécu ?
Le départ du Maroc ? C'était très excitant. En réalité, c'était une nouvelle vie. J'imaginais que... On allait vivre la même chose que sur les campus américains dans les téléfilms, que ça allait être très très drôle, qu'il y aurait des capitaines d'équipes de foot et des chefs de pop-up girls. Et puis c'était Paris, donc Paris, la Sorbonne, c'était un moment qui faisait rêver, l'apprentissage, la vie d'adulte.
Est-ce que vous aviez des avocats ou avocates dans votre entourage ?
Pas du tout, j'avais absolument aucun avocat dans ma famille ni dans mon entourage, non, j'en connaissais pas.
Et est-ce que c'était réalisable pour vous ?
Oui, je ne me suis pas trop posé la question de savoir si c'était réalisable. C'était dans un cheminement d'études de droit, un parcours classique, en fait. C'était pas une reconversion ou une nouvelle idée ou une lubie. Oui, c'était quelque chose de réalisable, oui.
Et donc, quand vous avez débuté vos études de droit, pour vous, c'était déjà très clair, vous vouliez devenir avocate.
J'y pensais fortement.
C'est quand même un métier qui demande une immense force mentale. Comment est-ce qu'on réussit à entendre la violence humaine au quotidien sans qu'elle vous abîme ?
Mais je crois qu'avant d'entendre la violence humaine, on entend surtout l'humain. Parce qu'on ne peut pas réduire les gens aux actes qu'on leur reproche et ou qu'ils ont commis. La violence, elle est d'abord ressentie par les personnes, par les clients, qu'ils soient auteurs ou victimes. On ne la vit pas comme eux. On essaye quand même de mettre une barrière si c'est possible. Et je pense qu'au-delà des faits qui ont été commis ou subis, je crois que la double violence réelle et que les gens n'imaginent pas, c'est la violence du système judiciaire. Cette violence-là, elle est plus difficile à supporter et elle est plus lourde que celle des gens. C'est comment le système peut, pardonnez-moi le mot qui est trivial mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, comment le système écrabouille les personnes. Et là, nous, on est là en tant qu'avocat pour faire part avant parce que c'est extrêmement violent et les gens ne s'en rendent compte que quand ils y sont confrontés.
Il y a des personnes aujourd'hui qui ont du mal à comprendre qu'un avocat puisse défendre quelqu'un sans cautionner ses actes. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ?
Je leur dis qu'il faut reprendre les fondements d'une démocratie et que de défendre quelqu'un, tout d'abord, c'est pas défendre une cause. Si vous défendez, alors c'est toujours l'exemple qu'on vous donne, hein, c'est le tueur d'enfants pédophile. En général, les gens vous donnent ce cas extrême.
Ou le meurtrier.
Voilà. On rajoute souvent l'enfant parce que ça fait encore plus mal au cœur. C'est pas parce que je vais défendre un criminel que je cautionne son crime. Je suis pas en train de dire qu'il a eu raison de le faire s'il l'a fait. Encore faut-il qu'il l'ait fait parce que c'est pas forcément établi. Donc, il y a déjà ce premier point. Et s'il l'a fait, c'est de pouvoir expliquer comment un être humain en arrive à ce genre d'acte. Quel est le parcours de la personne, et qui, encore une fois, ne justifie pas, mais explique qu'on puisse en arriver à ça, sachant que je suis convaincue que tout un chacun peut être confronté à un crime pareil. C'est-à-dire qu'on est tous à la limite et il n'y a pas des profils de délinquants, il n'y a pas des profils de criminels. Ça peut vous tomber sur la tête à n'importe quel moment, je pense. Il y a certaines personnes qui sont quand même dans des conditions plus difficiles, mais je crois qu'on peut tous être confrontés à la justice. Et c'est comme, en exemple, c'est comme si vous demandiez à un médecin de ne pas défendre quelqu'un parce qu'il aurait mal agi dans la société. On n'est pas là, nous, pour juger les gens. Si on veut juger les gens, ben, il y a des métiers pour ça.
Dans votre parcours, quel a été le moment le plus difficile où vous avez douté de votre place ou même, voire de votre vocation ?
De toutes les semaines. Toutes les semaines, on doute. Parce que si on ne doute pas, on est dans une certitude paresseuse et on ne se remet pas en question. On doute tout le temps. Je crois que c'est un métier où on est sans cesse et c'est pour ça que c'est épuisant en réflexion, en se demandant si c'est comme ça qu'il faut faire, si on a bien fait, si on n'a rien oublié. Est-ce qu'on a bien expliqué aux clients ? On est tout le temps dans le doute. En tout cas, en tant que pénaliste, on est tout le temps dans le doute. C'est ce qui nous permet de rester en éveil et de ne pas nous endormir sur d'éventuels lauriers. Je crois qu'il faut qu'on doute. C'est indispensable.
Avec du recul, est-ce que vous êtes plutôt fière de votre parcours ?
Je suis fière de mon métier. Je trouve que c'est un très beau métier qui est souvent dévalorisé, voire sali, parce qu'on s'arrête peut-être parfois sur des cas de confrères qui ont fauté, mais en réalité, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, à savoir des gens très engagés, très soucieux de la protection de nos concitoyens. Voire même de personnes qui ne sont pas nos concitoyens, qui sont de passage sur le territoire, mais à qui il faut donner une place.
Justement, vous disiez que c'était un métier qui peut être facilement jugé. Comment est-ce que ça vous l'expliquez ?
Parce qu'on est parfois dans la caricature, parce que les réseaux sociaux font beaucoup de mal, parce que vous voyez parfois des petites vidéos de gens qui se présentent comme avocats ou qui sont avocats, qui dévalorisent, je trouve, le métier. Parce que parfois, vous avez des personnes qui ont affaire à des confrères peu scrupuleux, ça arrive, comme dans toute autre profession, mais forcément, souvent, on ne parle que des trains qui arrivent en retard, hein, pas de ceux qui sont à l'heure, et puis ça prend des proportions assez importantes. Peut-être aussi que parfois, en tant qu'avocat, on n'est pas assez accessible aux clients, qu'on n'explique pas assez les choses, que les gens ne comprennent pas pourquoi on n'est pas disponible 24 heures sur 24, mais ça, on fait au mieux. Mais parfois, vous avez une audience, une garde à vue en cours, etc. Vous ne pouvez pas répondre aux gens dans la demi-seconde. Mais de manière générale, je pense que dans le métier, les confrères, en tout cas dans cette matière-là, font en sorte d'être disponibles pour les clients.
Et en tant que femme avocate, qui plus est en tant que femme franco-marocaine, est-ce que vous avez le sentiment de devoir prouver toujours plus dans cette profession, en tout cas un peu plus que les autres?
Alors oui, au moment où je cherchais mes premières collaborations en tant qu'avocat, c'est sûr que c'était pas des points en plus d'être appétillance maghrébine venant du Maroc et femme. C'était quand même un métier à l'époque qui était très masculin, en tout cas en pénal, et très peu exotique, on va dire. À Paris, en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ça doit être pire ailleurs. Oui, c'était compliqué de trouver une première collaboration. Maintenant, on a quand même beaucoup plus de femmes visibles et qui ont démontré leurs compétences. Oui, alors pour trouver première collaboration, ce n'était pas simple. J'avais une amie et consœur palestinienne. On a été pratiquement les dernières à trouver une
ça, première collaboration. Ça, c'était il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans. On n'était peut-être pas forcément les plus intelligentes, mais on n'était pas les plus bêtes. Et il se trouve que, étonnamment, les deux seules qui ont mis le plus de temps à trouver une collaboration, c'était ma palestinienne et moi-même. Après, auprès des juridictions, ce n'était pas simple non plus au départ. C'était moins visible en principe. Aujourd'hui, je crois que le problème se pose moins, si tant est qu'il n'y ait pas de problématique pour des femmes pour atteindre certains niveaux et qu'il n'y ait pas plafond de verre comme dans tous les métiers.
Vous sentez en tout cas que ça évolue au niveau des représentations? Vous voyez plus de femmes avocates qui vous ressemblent en tout cas?
Oui, oui, oui. Il y en a plus. Il y en a plus. Moi, je sais qu'en audience, sur les premières années, j'avais des confrères, alors que j'étais en robe, qui m'appelaient mademoiselle, alors qu'on se donne du confrère entre nous. Donc, oui, on le note. Bon, il faut essayer de le prendre avec humour et d'avoir de la répartie, mais je n'ai jamais vu de confrères entre hommes en train de dire « bonjour jeune homme ». J'ai jamais vu.
Et justement, cette double culture, dont je le rappelle, vous êtes française et marocaine, vous le vivez plutôt vous comme une richesse ou comme un obstacle ?
Ah, c'est totalement une richesse, puisque déjà, ça nous permet de nous adapter, je pense. On a l'habitude de s'adapter à plusieurs univers, à plusieurs cultures, à plusieurs modes de fonctionnement. Donc pour moi, c'est une totale richesse. Je peux rencontrer des clients de toute nationalité, tout âge, tout milieu professionnel. J'ai aucune problématique à comprendre ce qu'ils me disent, ce qu'ils vivent. Que ça soit un dirigeant de société ou une travailleuse du sexe chinoise ou un dirigeant américain, je n'ai pas de difficulté d'adaptation, parce que je pense qu'on développe cette faculté d'adaptation et de connaissance de choses qui, au départ, ne nous ressemblent pas.
Vous pensez que oui, cette faculté d'adaptation, elle est aussi liée au fait que vous, vous ayez une double culture?
Je pense que c'est déjà une nature qui est accentuée par la double culture, oui.
Et c'est quoi votre rapport au Maroc?
Bah, le Maroc, c'est chez moi, donc oui, j'y retourne souvent. L'essentiel de ma famille y est. Je ne me sens pas en vacances touristiques quand je rentre au Maroc. Je suis autant chez moi qu'ici, chez moi.
Tout à l'heure, je vous avais demandé donc, si vous aviez des avocats dans votre entourage, dans votre famille. Vous me disiez que non. Est-ce qu'au moins vous aviez des modèles?
Jacques Vergès, comme tout le monde. On a tous été biberonnés à Jacques Vergès, à Gisèle Halimi, ces grands noms, ces grands ténors du barreau parisien, en réalité. C'est quelque chose qui a fasciné, je crois, tout le monde, et même ceux qui ne voulaient pas être avocats.
Aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, qu'aimeriez-vous transmettre justement à ces jeunes-là qui vous écoutent et qui vous ressemblent notamment et qui n'osent peut-être pas rêver grand ou en tout cas rêver de devenir avocat?
Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils passent au-delà de ce qu'on peut leur dire pour leur bourrer le crâne, qu'on arrête de se laisser cantonner dans des rôles, dans des postures, dans des schémas, et qu'il faut qu'ils prennent leur place dans la cité, au sens société, qu'ils votent, parce que c'est ce qui permet de prendre sa place dans la cité en réalité. Et il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Il n'y a aucun élément, si ce n'est l'absence de travail, qui peut laisser croire qu'on ne peut pas y arriver. On doit prendre sa place. On ne peut pas laisser les gens ne pas nous laisser de place. Encore une fois, seul le travail permet d'y arriver.
Merci beaucoup à Malkemdine d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Venu d'Orient, un épisode avec Amal Kembib, avocate. C'était Nawal El Amouchi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.